De là, j'ai vu qu'on n'avait vraiment pas compris le. On n'avait pas la bonne compréhension parce que nous, en tout cas en France, on a toujours cette opposition entre mémorisation et compréhension. Ce n'est pas des choses qu'on va lier. C'est un travail. La relation avec le Coran, c'est le travail de toute une vie. C'est pas comme certains, on va dire, c'est sur quelques années. Non, c'est un travail de toute une vie. Et c'est comme je le dis à mes élèves, ils vont me dire, oui, mais étudier le Coran selon cette méthodologie, c'est long et tout. Je dis, oui, mais au moins vous êtes sur le chemin. Mieux vaut mourir sur le chemin que mourir en disant non, c'est trop long, j'emprunte pas ce chemin-là. Et la relation avec le Coran et notre spiritualité et notre évolution, notre progression, c'est pas un temps donné, c'est pas un temps d'arrêt. Je mets 3 ans de côté de ma vie, je mémorise le Coran et après, non. Non, c'est toute une vie. On n'a pas besoin d'être un professeur ou d'être un imam ou etc. pour faire des rappels, on a juste à transmettre ce qu'on a compris.
Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincue du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission. Celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Nous revoilà pour la seconde partie de ma conversation avec notre frère Abdelkarim. Si la fin du premier épisode vous a fait trépigner d'impatience, celui-ci comblera, Inch'Allah, toutes vos attentes. Abdelkarim partage avec nous de nombreuses notions permettant de développer une relation saine et pérenne avec le Coran. Parmi les plus précieuses, vous entendrez la méthodologie d'apprentissage utilisée par notre prophète bien-aimé, ou encore comment mettre en pratique dans le présent des ayats que l'on a mémorisés des mois, voire des années auparavant. Et autre point très important, Abdelkarim revient sur le terme de méditation, une discussion qui personnellement m'a beaucoup apporté, tant cela était éloigné de tout ce que l'on a pu m'enseigner. Enfin, et vous le savez bien, ici, on aime parler d'amour. Il était donc impossible de ne pas lier ce sentiment avec le Coran. On discute également du couple et de la manière dont on peut se rapprocher, se connecter autour de la parole sacrée. Je remercie sincèrement Abdelkarim pour sa transparence dans tous les thèmes abordés. C'est toujours un plaisir d'entendre des frères partager leur expérience en toute confiance. Sans plus tarder, je vous laisse profiter des nombreux enseignements de mon invité et vous souhaite, Inch'Allah, une excellente écoute.
M'a dit, tu vas faire des recherches sur la méthodologie prophétique d'enseignement et d'apprentissage du Coran. Donc, il m'a donné une bibliographie, des cours à écouter, etc. Il m'a dit, fais tes recherches et pose-toi la question, reviens aux sources, comment le Coran était transmis à l'époque du prophète Anselme, des compagnons et des premières générations. Et là, voilà, je suis tombé de haut quand j'ai commencé à ouvrir les livres qu'il m'a conseillé, que j'ai commencé à écouter les cours. Et je me suis dit, on est vraiment, vraiment à l'ouest. J'ai fait une thèse, en fait, une thèse, c'est un grand mot, hein, mais j'ai travaillé sur ce sujet-là. Et il m'a dit de lui rendre, je ne vais pas appeler ça un mémoire ou une thèse, parce que ce n'est pas à ce niveau-là, mais de lui rendre une recherche sur ce que j'ai compris de la méthodologie prophétique. Et donc, je lui ai rendu, et il m'a dit, t'es tombé sur le problème actuel. Et ensuite, c'est cette recherche-là que j'ai traduit en français, et qui est disponible avec le livre « Apprendre et enseigner le Coran comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam ».
C'est incroyable, en fait. C'est incroyable parce que, en fait, c'est, subhanallah, vous avez traversé, je ne sais pas, presque 10 ans, en fait, finalement, d'apprentissage, pour finalement vous rendre compte que la manière dont on vous a introduit, et même, parce que c'était plus qu'une introduction, la manière dont on vous a introduit, puis après la manière dont vous avez appris les sciences religieuses, c'est complètement... À l'ouest, en fait, en tout cas, à l'opposé de ce que faisait le prophète, enfin, à l'époque, ce qui se faisait, pardon, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ma question, c'est comment, du coup, ça se faisait à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et pourquoi, finalement, plutôt comment ça se faisait. Ça, je pense que c'est important qu'on le sache parce qu'il y en a très, très peu qui le savent. Moi-même, je l'ai découvert en fait avec vous, pour être tout à fait transparente. Et ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, c'est dur d'appliquer cette méthodologie-là? C'est-à-dire qu'est-ce que nous-mêmes, en tant qu'individus qui avons baigné dans des modes d'apprentissage qui ne sont pas ceux-là, est-ce que c'est dur de nous récupérer ou pas en fait? Est-ce qu'on en a envie? Est-ce qu'on est prêt? Voilà.
Avant de répondre à cette question, je vais vous parler de la réaction que j'ai eue quand j'ai trouvé ça. En fait, quand j'ai compris ça, en premier, j'en voulais à toute la terre. Je dis, je suis passé par différents imams, différents chouurs, différents instituts et tout ça. On m'a toujours enseigné le Coran comme ça et en fait, c'est pas la bonne chose. Et je sentais comme une trahison parce que pour moi, mes enseignants savaient cette chose-là. Et c'est en parlant avec ce docteur, il m'a dit non, il m'a dit eux, ils ont appris comme ça, ils transmettent comme ça. Et il m'a fait comprendre que, entre guillemets, on est obligé de passer par cette étape-là. Donc, c'est pas un mal. Mais le tout, après, c'est d'évoluer et de progresser dans notre apprentissage du Coran.
C'est ça, en fait. Donc, l'idée, c'est de pas s'arrêter sur cette méthode-là, en fait. C'est-à-dire que c'est comme vous avez, quand on a commencé la conversation, vous disiez, c'est bien, en fait, de lire le Coran. Mais en fait, l'idée, c'est d'aller encore plus loin. Et là, c'est pareil, en fait. Mais c'est ce que vous avez dit très souvent. Hein. Vous vous êtes arrêté en licence et les frères qui ont continué vous ont dit, c'est après que le vrai travail de réflexion commence. Donc, en fait, quelque part, peut-être que le problème, c'est pas tant la méthodologie, mais c'est de se dire que ce n'est que ça. Le Coran, ce n'est que l'apprendre par cœur, ce n'est que tout ce que vous avez appris pendant quasiment 10 ans. Il est là, en fait, le vrai problème. Le problème, c'est quand on s'arrête là et qu'on ne va pas plus loin. Et le problème, c'est que beaucoup ne vont pas plus loin. C'est ça, en fait, que vous dites quelque part.
C'est ça, mais on va voir que dans la méthodologie même, on ne commence pas par la mémorisation.
Ok.
Donc, là, j'en voulais, mais après, voilà, j'ai compris que non, en fait, tout le monde... ne faisait pas attention à ça, ne revenait pas sur la méthodologie, sur... Après, je me suis posé des questions, j'ai mis ça à dire que, en fait, il y en a qui se suffisent de la mémorisation du Coran, mais qui n'ont pas besoin d'aller plus loin. Et le cheikh me dit oui. En fait, chacun répond à ses besoins. Il y en a, ils ont besoin... Le fait de réciter le Coran, de le mémoriser, ça apaise leur cœur et ça a un effet sur eux, ils se contentent de ça. Mais ils ne profitent pas à 100% des fruits du Coran. Après mes recherches, j'ai continué à me former avec ce professeur. En fait, il m'a fait passer par ce travail de recherche pour savoir si j'étais vraiment motivé ou pas. Et quand je lui ai rendu mes recherches, il m'a dit « Ok, maintenant je peux te former. » Et donc, il m'a formé à une méthodologie. Et en fait, ce qu'on peut voir pour résumer rapidement et pour ceux qui veulent plus de détails sur la méthodologie prophétique dans l'apprentissage et l'enseignement, je les renvoie vers mon livre. Et ne vous inquiétez pas, mon livre, ce n'est pas une traduction de ma thèse, parce qu'en premier, c'est ce que j'avais fait, que c'était un truc très lourd, c'était vraiment scientifique. Et j'ai revu ça en racontant mon expérience, en rendant ça beaucoup plus accessible. Donc, ce livre-là, il est accessible pour monsieur tout le monde et pas simplement pour les étudiants de Coran ou les étudiants universitaires. Rapidement, on s'aperçoit quand on étudie les textes que l'enseignement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec les compagnons, il y a trois points importants. C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il enseignait aussi bien les mots du Coran que les sens du Coran. Donc, il n'y avait pas cette opposition entre soit je mémorise le Coran, soit je comprends le Coran. Non, ce sont des choses qui vont ensemble. Il n'y a pas de... C'est pas soit l'un, soit l'autre. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il priorisait les sens du Coran aux mots du Coran. Donc, il faisait beaucoup plus attention au fait, à savoir si les compagnons avaient compris le Coran, plutôt que s'il avait mémorisé. Et ensuite, le troisième point, c'est que quand on parle des mots du Coran, on parle du savoir et de la mise en pratique. Savoir et mise en pratique. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Ce n'est pas simplement un savoir qui reste bloqué dans notre cerveau, mais c'est un savoir qui nous pousse à la mise en pratique. Donc je répète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseignait aussi bien les mots du Coran que les sens du Coran. Il privilégiait les sens du Coran, et quand on parle de sens du Coran, c'est savoir et mise en pratique. Ça, c'est vraiment ce qui ressort dans l'analyse des hadiths, dans la parole, les paroles des compagnons qui décrivent leur apprentissage auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme beaucoup de compagnons, il est rapporté beaucoup de compagnons qui disent on apprenait le Coran 10 versets par 10 versets et on n'avançait pas tant qu'on ne les avait pas compris et mis en pratique. Et des paroles qui vont dans ce sens-là, il y en a énormément. Donc, de là, j'ai vu qu'on n'avait vraiment pas compris on n'avait pas la bonne compréhension parce que nous, en tout cas en France, on a toujours cette opposition entre mémorisation et compréhension. C'est pas des choses qu'on va lier. Une personne, elle va se dire, bon, moi, je finis la mémorisation du Coran et ensuite, je fais la compréhension du Coran. Non, bah, c'était pas comme ça. Et donc, ça, c'est les trois grands points, bien sûr, qui sont détaillés dans le livre.
Oui. Moi, j'ai une question par rapport à ça, parce que du coup, c'est quelque chose que vous expliquez dans votre ouvrage, mais c'est aussi quelque chose que vous mettez en place à travers le projet Vivre le Coran. Et ma question, c'est est-ce que... déjà, pour vous peut-être, et ensuite pour les personnes qui ont participé à ce projet-là, ou en tout cas qui ont suivi ce projet-là, ou peut-être qui ont lu votre livre et qui vous ont fait un retour, ma question c'est, est-ce que vous avez vu les fruits de cette méthodologie chez vous et chez les autres personnes du coup à qui vous avez enseigné tout ça? Est-ce que vraiment là vous vous êtes dit, ah c'était vraiment ça le nœud du problème?
Bien sûr, alors à titre personnel, ça a vraiment eu un impact. Parce que là, on parle de mise en pratique concrète, on ne parle pas simplement d'information, de mémorisation. Et chez les élèves, ça a eu, je dirais que chez mes élèves, ça a eu un impact plus fort que ça a eu sur moi.
Pourquoi ?
Je ne saurais pas le dire. Peut-être parce que je leur donne accès en fait à des sources qu'ils n'ont pas accès. Parce que moi, mon travail, je prends beaucoup de sources arabes, donc qui n'ont pas accès, et je les rends accessibles. Et les retours que j'ai pour ceux qui ont suivi la formation Nouveau Départ avec le Coran et ceux qui sont sur la plateforme justement Deviens Compagnon du Coran, ils sont incroyables. Il y en a une. Et même moi, quand j'ai leur retour, j'y crois pas. Je dis non, mais il y a une sœur qui pendant des années a eu des problèmes de surpoids, mais liés à des antécédents niveau psychologique, etc., des épreuves qu'elle a vécues. Ça s'est transformé en surpoids, en je sais plus comment on appelle ça, pas malnutrition, mais en fait elle compensait ses problèmes par la nourriture. Elle m'expliquait qu'elle a eu recours à toutes sortes de psychologues, toutes sortes de développement personnel, tout ce qu'on connaît, rien n'a changé. Et c'est le fait de mettre en application le Coran. Et elle m'a dit, je savais que la solution, elle était dans le Coran. Mais le fait d'avoir une simple mémorisation, ça n'avait pas arrangé les choses. Et elle m'a dit, je suis sorti de ce cercle infernal par votre méthodologie, par vos enseignements. Et donc, quand on a des retours comme ça, et là, on dit, voilà, là, on profite de la baraka du Coran. Ce n'est pas ma méthodologie, ce n'est pas vivre le Coran. Non, c'est qu'elle a profité de la baraka du Coran et c'est la baraka du Coran qui l'a sorti de son problème. Et des retours, il y en a beaucoup qui disent, cette méthodologie a changé ma vie. Et moi, je trouve ça fort. Je dis, et beaucoup me disent, en fait, maintenant, je sens que je vis le Coran, et d'où le nom Vivre le Coran, parce que c'est vraiment ça que je voulais transmettre, c'était vivre le Coran, que dans notre quotidien, beaucoup de mes élèves me disent, bah, mon entourage, il voit un changement, mon entourage voit que j'évolue spirituellement, que mon comportement, qu'il y a des choses que je ne fais plus, qu'il y a des choses que je fais en plus, et c'est ça en fait. Après, c'est un travail, la relation avec le Coran, c'est le travail de toute une vie. C'est pas comme certains, on va dire, c'est sur quelques années. Non, c'est un travail de toute une vie. Et c'est comme je le dis à mes élèves, ils vont me dire, oui, mais étudier le Coran selon cette méthodologie, c'est long et tout. Je dis, oui, mais au moins vous êtes sur le chemin. Mieux vaut mourir sur le chemin que mourir en disant, non, c'est trop long, j'emprunte pas ce chemin-là. Et la relation avec le Coran et notre spiritualité et notre évolution, notre progression, c'est pas un temps donné, c'est pas un temps d'arrêt. Je mets 3 ans de côté de ma vie, je mémorise le Coran et après, non. Non, c'est toute une vie. C'est
Parce que je pense
de cette
qu'on
prise de
est.
conscience.
En tant que Français, on est très. En fait, on a l'impression que le savoir et l'apprentissage, ça a un début, ça a une fin. Et en fait, on a du mal parfois à réaliser que on apprend toute sa vie. En tout cas, on doit apprendre toute sa vie. Parce qu'effectivement, vous l'avez très bien dit, au moins on est sur le chemin et mieux vaut mourir sur le chemin, en fait. Parce que le sujet, c'est que en apprentissage, il n'y a pas de. Moi, je trouve, il n'y a pas de frein à main, en fait. C'est-à-dire que soit tu montes, soit tu descends. Tu es sur une pente et si tu arrêtes d'apprendre, tu redescends, en fait. Et il n'y a pas ce truc de ah, ça y est, je suis arrivé. Non, c'est il faut apprendre toute sa vie et il faut être capable de d'intégrer ça dans son esprit. Parce qu'effectivement, sinon, on peut être assez frustré en se disant non, mais quand est-ce que j'arrive? Quand est-ce que j'arrive? Alors qu'en fait, tout se passe dans le chemin, en fait. Et il faut être capable de changer sa vision en se disant ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est le chemin. Et moi, je suis la première à avoir beaucoup de mal avec ça. Mais quelque part, c'est je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre, en fait.
C'est ça, et faut être convaincu que notre relation avec le Coran, en fait, elle est. Ce que je veux dire, c'est que on va étudier une sourate, par exemple, mais mon contexte, il fait que cette sourate-là, en fait, je ne vais pas profiter de ces enseignements aujourd'hui. Mais dans une semaine ou dans un mois, je vais être touché par une épreuve, et c'est là que je vais dire, ah, la sourate-là, c'est maintenant qu'il faut que je m'accroche à cette sourate-là. C'est pas ça y est, j'ai mémorisé Sourate al-Ikhlas et ça y est, je passe aux autres sourates sans revenir sur Sourate al-Ikhlas. Et c'est ça en fait qui est puissant, c'est que moi, ce que j'essaye de donner aux élèves, c'est les billes pour qu'ils puissent utiliser telle sourate à tel moment. Et ok, aujourd'hui, cette sourate-là, elle te parle pas, t'es pas concerné, mais un jour, tu seras concerné. Donc, et le réflexe de revenir aux enseignements de cette sourate-là pour surmonter cette épreuve-là ou cet événement.
Alors moi c'est ça que je trouve difficile en fait parce que on a entendu effectivement des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disaient on n'allait pas sur d'autres ayats tant qu'on n'avait pas assimilé et mis en pratique les précédentes. Mais comment mettre en pratique des ayats alors que bah comme vous l'avez très bien dit des fois les situations ne permettent pas de mettre en pratique. Et c'est quoi concrètement mettre en pratique? Parce que je pense que là il y a plein de gens qui se disent mais ça a l'air extraordinaire mais comment je fais pour mettre en pratique, en fait? J'imagine qu'il y a dans la partie l'Imoun du Coran, on apprend vraiment la signification de chaque mot, etc. On peut revenir sur l'exégèse peut-être de certaines ayahs, vous nous en direz plus. Mais en tout cas, ma question, c'est comment on fait pour mettre en pratique et comment on fait pour se dire, d'un côté, tant que j'ai pas mis en pratique, j'avance pas. Et d'un autre côté, bon, ben, c'est des choses que peut-être je mettrai en pratique dans 4 ans. Et puis, quand bien même j'ai appliqué la sourate al-Ikhlas il y a 1 an, ben, c'est 1 an plus tard finalement que je l'aurais vraiment bien assimilé. Vous comprenez? Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, dans
Si,
mon
si,
esprit à
si.
moi, je trouve que c'est difficile d'appréhender.
Alors, c'est deux très bonnes questions. La première chose, c'est qu'il faut savoir que pour arriver à cette mise en pratique, le but ultime, hein, donc de la révélation de chaque sourate, il faut suivre une méthodologie. C'est-à-dire que moi, ce que j'enseigne, la façon dont j'enseigne le Coran à travers le projet Vivre le Coran, c'est on a cette étape de recevoir la sourate, donc de l'écouter plusieurs fois, de la lire plusieurs fois, de l'écrire pour vraiment s'imprégner de cette sourate-là. Ensuite, il y a la présentation de la sourate, donc on va parler des causes de révélation, du nombre de ses versets, des différents noms de cette sourate, bref, tout ce qui tourne autour de la sourate qui va nous donner des informations. On fait connaissance, on a une culture générale de la sourate qui va nous préparer à rentrer dans la compréhension. Ensuite, il y a l'étape de la compréhension avec les livres de tafsir. Et ça, cette étape-là, justement, c'est moi qui l'a fait. Parce que dans cette méthodologie, en fait, il y a le travail du professeur et le travail de l'élève. Ce n'est pas simplement le professeur qui agit, mais moi, je facilite l'accès aux sources. Donc, la présentation de la sourate, tafsir de la sourate. Ensuite, on a la partie méditation. Et c'est cette partie qui est négligée. Et en fait, quand on a compris la sourate, comment on va passer à une mise en pratique? On va se poser la question. Donc là, j'ai bien compris la sourate, je sais ce dont elle parle, je sais son message. Là, je me pose la question de ce que j'ai compris, qu'est-ce qu'Allah veut que je mette en pratique? C'est ça, c'est répondre à cette question-là, en fait. De ce que
Et
j'ai
c'est ça
compris,
méditer?
Non, ça, c'est avant la
Ah,
méditation.
d'accord, ok.
Ça, c'est de ce que j'ai compris, qu'est-ce que je veux mettre en pratique. Et là, on va en sortir ce que j'appelle la RPP. Donc là, c'est un langage un peu barbare, hein. C'est la recommandation principale pratique. C'est la chose principale pratique que j'en déduis de cette sourate-là. Et bien sûr, pour la trouver, il faut suivre un protocole. Hein, je forme justement les élèves à passer de l'information à la mise en pratique. Une fois qu'on a trouvé cette RPP, cette recommandation pratique de la sourate-là, là, je vais rentrer dans l'étape de la méditation. Et l'étape de la méditation, en fait, j'aime pas utiliser ce mot méditation, parce que méditation, ça renvoie à des pratiques qui sont prises dans d'autres pays, notamment en Asie, etc., qui sont en contradiction avec notre religion.
Ça allait être mon propos, en fait, justement. C'est pour ça que ça m'a interpellé, parce que ce terme-là, je pense qu'on en a peur, comme ça nous, quelque part, ça nous intéresse, parce que il y a ce, et vous l'avez dit vous-même, en fait, on a cette envie de réfléchir, d'aller plus loin, de quelque part, d'un point de vue humain, on a envie d'aller vers là, de tendre vers ça, mais d'un autre côté, on a l'impression qu'on a peur de se perdre, en fait, on a peur de s'y perdre, on a peur de dire n'importe quoi, et en même temps, on nous dit que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils méditaient. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire là-dessus, en fait? Et c'est quoi, du coup, pour vous, la méditation au sens prophétique du terme?
La méditation, en fait, il faut tout ce que vous pensez là dans méditation, tout ce qui vient dans votre tête, bah c'est pas ça. Et c'est pour ça que moi je préfère utiliser le mot tadabbur al-Qur'an plutôt que la méditation. Et j'ai pas trouvé de mot en traduction pour traduire justement tadabbur al-Qur'an. Et c'est pour ça que ce qui est connu, c'est méditation du Coran, mais c'est pas représentatif du tout.
Pour mais certaines qu'est-ce que personnes, ça inclut? Ah pardon, parce que je me dis souvent les mots en arabe, on peut les traduire par plein de mots différents. On n'aura pas forcément le terme précis. Comme là, effectivement, finalement, on se dit ok, la méditation c'est pas ça. Alors du coup, qu'est-ce que ça peut être d'autre en fait?
La méditation, en fait, c'est un processus qui va nous amener à une mise en pratique. C'est le pont entre la compréhension et la mise en pratique. Et c'est le pont qui va activer notre cœur. Là, on a l'information. J'ai compris la sourate. J'ai compris le message de la sourate. J'ai répondu à la question « qu'est-ce qu'Allah veut que je mette en pratique par la révélation de cette sourate-là » Maintenant, il est très dur de passer de l'information à la mise en pratique, sans passer par justement l'activation du cœur, parce qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que dans notre corps, on a un morceau de chair, s'il est bon, tout le reste du corps sera bon, et s'il est mauvais, tout le reste du corps sera bon, et que ce morceau de chair, en fait, c'est lui qui donne les ordres
aux membres. Tout le reste du corps sera mauvais. Vous avez dit
oui, excusez-moi. Okay. Ouais. Et donc, le cœur, c'est lui le chef. C'est lui qui donne les ordres aux membres. C'est pas le cerveau. Et nous, on veut passer de la compréhension à une mise en pratique. On peut le faire, mais ce sera pas la meilleure mise en pratique. Ce sera pas une pratique qui va durer dans le temps. Ce sera pas une pratique régulière, etc. Il faut passer par ce concept de méditation et donc mettre en action les cœurs.
D'accord.
Et la méditation, en deux mots, tadabbur al-Qur'an, c'est quoi? C'est premièrement faire son auto-bilan. Allah, il veut que je mette en pratique cette chose-là. Par exemple, récemment, on a étudié avec le groupe, on a étudié Surat al-Takathur. Donc, Surat al-Takathur, la recommandation pratique principale, c'était que je ne me laisse pas distraire par la recherche de la surabondance. Que dans ma vie, je ne me laisse pas distraire de mon but de ma création qui est l'adoration d'Allah, que je ne me laisse pas distraire du rappel d'Allah par la recherche de la surabondance. Donc la personne, il va passer par une étape de auto-bilan. Et ça, je ne peux pas le faire pour la personne, parce que chacun a sa vie, chacun a son expérience, chacun a ses
problèmes. Chacun a son cœur, en fait. Bien sûr,
voilà.
Bien sûr.
Et par exemple, on va se poser la question, voilà, où j'en suis par rapport à ça? Où j'en suis dans ma vie par rapport à la recherche toujours du plus? Et est-ce que ça a un impact sur ma relation avec Allah? Il y en a qui vont dire oui. Moi, par exemple, je collectionne, je ne sais pas moi, les téléphones. Et à chaque fois, j'achète le nouveau téléphone. Donc, je travaille à fond pour chercher le nouveau téléphone. Il y en a qui vont dire, moi, je collectionne les timbres et je voyage dans des pays pour chercher les timbres. J'utilise mon argent, mon temps. Et tout ça, en fait, ça m'éloigne d'Allah plus que ça me rapproche de lui. Donc, chaque personne, il va dire, oui, mais réellement, j'ai ce problème-là avec telle chose. Il y en a, ils vont dire, c'est les réseaux sociaux, le fait de rechercher le plus d'abonnés, bref, plein de choses. Hein. On en a discuté avec les élèves et justement, on a des expériences différentes. Et donc, la personne va faire son auto-bilan et va se dire, donc, où j'en suis par rapport à cette recommandation ? Bah voilà, j'ai mes manquements. J'ai mes manquements, c'est ça, 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 ça. Ok. Maintenant, on va passer à la deuxième étape de la méditation. C'est te poser la question, qu'est-ce que tu as à gagner ? Que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà, à mettre en pratique cette recommandation pratique. Et qu'est-ce que tu as à perdre si tu ne la pratiques pas ? Et donc là, on va avoir accès aux livres de hadith ou on va prendre le chapitre, par exemple, l'amour pour ce bas monde. Et on va prendre, qu'est-ce que j'ai à gagner à délaisser l'amour de ce bas monde ? Qu'est-ce que j'ai à perdre si je me fais prendre par l'amour de ce bas monde ? Et donc là, la personne va dire, ah ouais, en fait, si je continue comme ça, et même en général, les réponses à cette question-là, là, qu'est-ce que j'ai gagné, ce que j'ai à perdre, on l'a traité dans le tafsir de la sourate. Donc, si je me laisse aller par l'amour de ce bas monde, je risque de m'écarter d'Allah, je risque de vivre pour un autre objectif que celui de ma création, qui est adorer Allah, je risque de passer un mauvais passage dans ma tombe, etc. etc. Donc là, la personne, elle a les éléments. Maintenant, la méditation, c'est là où on parle de tadabbur. Tadabbur, c'est ce qui vient après. Et les savants, ils nous disent que le tadabbur, c'est ce concept de projection. Là, je sais ce que j'ai à gagner, ce que j'ai à perdre. Maintenant, la troisième étape, c'est de me projeter, de vivre, de prendre un temps et de dire, voilà, si je continue ma vie comme ça, à courir après de dunya, voilà ce qui m'attend. Et là, on va se projeter dans les conséquences négatives de mon mode de vie actuel. Et c'est là où le cœur il va rentrer en jeu, parce que celui qui fait ça bien, il va avoir peur. Il va dire, mais je ne peux pas continuer comme ça. Si je meurs dans cet état-là, dans l'au-delà, il m'attend ça, 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 ça. Et il va faire la même chose avec qu'est-ce que j'ai à gagner à changer mon mode de vie et à délaisser ce qui m'éloigne d'Allah. Il va dire donc, je vais gagner le paradis, je vais gagner la proximité d'Allah, le rappel d'Allah. Dans ma tombe, j'aurai ci, j'aurai ça. Donc là, il a fait ce qu'on appelle tadabbur. Il s'est projeté et il a vécu des choses. Et il y en a beaucoup qui pensent que méditation du Coran, c'est de savoir la relation entre tel et tel verset, de savoir la définition spécifique de ce mot-là, pourquoi Allah il a utilisé ce mot-là dans cette sourate et pas le même mot dans une autre sourate. Ça, c'est pas du tadabbur. Ça, c'est de l'approfondissement dans le tafsir. Faut pas confondre. Il y a différents degrés de tafsir. Il y a le tafsir général, il y a le tafsir un peu plus précis et le tafsir profond. Et c'est là où on voit la relation entre les versets et les nuances entre les mots, etc. Et c'est pas parce qu'on a découvert le sens réel d'un mot qu'on a fait du tadabbur. Le tadabbur, c'est vraiment de se projeter, de savoir qu'est-ce que j'ai à gagner et à perdre, à mettre en pratique ou non ce verset-là. Et donc, une fois qu'on a fait ça, le cœur, il est reboosté. Et imaginez-vous, vous faites ça pour toutes les sourates. Et vous savez, en fait, et vous dites, ouais, mais moi, j'ai envie de faire partie de ces gens-là. Et on rajoute également des histoires de compagnons qui sont en rapport avec ça, le délaissement de tel ou tel compagnon, de telle ou telle passion qu'il avait, bref, pour... Et donc là, on est prêt à mettre en pratique. Là, je suis prêt. Je reviens à ma première étape qui est ce que je dois délaisser. Là, je suis prêt à délaisser. Ok, je suis trop à fond dans les réseaux sociaux, je fais attention à qui me suit, qui est le nombre d'abonnés. Ça m'éloigne d'Allah, je fais des choses qui sont... je délaisse. Et c'est là où on va rentrer dans la mise en pratique. Qu'est-ce que je peux faire pour délaisser ça ? Là, petit 1, je peux faire ça. Au quotidien, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux faire ça. Et la mise en pratique, c'est deux choses. C'est le délaissement et le développement. Donc, qu'est-ce que je dois délaisser et qu'est-ce que je peux mettre en pratique au quotidien à mon niveau, à moi. Ma mise en pratique à moi va être différente de votre mise en pratique qui va être différente de la mise en pratique de... À mon niveau, je peux délaisser ça et je peux ajouter ça. Ça peut être ajouter, comme on parle de Surat al-Takathur, qui est le but, c'est de délaisser la dunya pour se rapprocher d'Allah, je vais délaisser des heures sur les réseaux sociaux pour avoir une lecture du Coran ou pour avoir une lecture de ce qui se passe dans l'au-delà. Ça va me rapprocher d'Allah. Donc là, on a vraiment ce qu'on a. On arrive à une purification de l'âme parce qu'on délaisse des choses négatives et on ajoute des choses positives.
Ah, là, c'est super intéressant.
Je vous ai résumé la méthodologie. Mais c'est un protocole qu'on fait, on prend notre temps. Et ce que j'essaye de faire en cours, c'est vraiment les élèves, ils ont des sous-classes et je les laisse travailler ensemble. Et donc, ils échangent sur leur expérience,
Ça
ils
stimule
essayent
en
de se
fait.
donner. Voilà. Et là, bah, on a totalement une autre relation avec le Coran parce que le Coran devient. On vit avec le Coran au quotidien, en fait.
En fait, ce qui est absolument incroyable, enfin, il y a plein de choses qui sont incroyables. Et déjà, merci d'avoir développé la méthodologie. Pour moi, c'était important qu'on rentre un peu dans ce détail-là parce que, encore une fois, pour des personnes qui la connaissent pas, cette méthodologie, ça peut paraître très abstrait, en fait. Et là, le fait que vous ayez posé des mots sur une méthodologie, c'est extraordinaire parce que là, on se dit, en fait, là, il y a la logique qui vient, en fait. Il y a les mots, puis après, une fois que vous avez posé les mots, on se dit, ah, ben donc c'est logique, effectivement, ça amène ça, ça amène ça, ça amène ça, c'est formidable. Ce que je trouve aussi très intéressant, c'est d'avoir redéfini ce que c'est que la méditation parce que moi, je ne l'avais jamais entendu comme ça. Et c'est vrai que moi, à chaque fois, je me disais, mais en fait, ça veut dire quoi méditer? Parce que les premières fois, en tout cas pour beaucoup de musulmans, où on a entendu le terme méditer, c'était pas de la bouche de personnes qui sont musulmanes. Donc en fait, après, on essaie de transposer ce qu'on a entendu chez des non-musulmans à une pratique musulmane, donc forcément bah, les résultats seront pas forcément probants. Et la troisième chose que je trouve très intéressante, c'est qu'en fait, quand vous parliez, vous disiez justement ça, c'est vraiment beau, la projection du cœur et que le cœur se dit le cœur va avoir peur, etc. Je me disais oui, mais ça, c'est si on a un cœur sain en fait, si on a fait déjà une purification de l'âme, une purification du cœur. Mais en fait, vous avez répondu quelque part à ma question en expliquant que c'est le fait d'être au plus proche des ayats du Coran qui permet justement de purifier ce cœur-là. En fait, plus on est au contact, plus on se dit, plus on nettoie notre cœur et plus on voit en fait la vérité, on voit à quel point, mais non, enfin, ça, c'est pas pour mon bien. Ça, si je chemine vers ça, effectivement, et si je délaisse ce type de conduite, voire de péché, je me rapprocherai d'Allah et ainsi, j'atteindrai la félicité. Donc, je vous remercie parce que c'était très clair et oui, là, je comprends ce que c'est en fait que du le Coran et vous avez conclu là-dessus en disant, et c'est pour ça que du coup, on a un rapport très fort avec le Coran, évidemment, parce qu'en fait, là, on a vraiment ce sentiment, je le crois, dites-moi si je me trompe, que là, on comprend qu'en fait, c'est dans le Coran qu'on a toutes nos réponses, en fait. Je vais pas bien, je vais puiser dans le Coran, j'ai un problème de couple, je vais me projeter, je vais pas méditer, je vais me projeter en recherchant des versets. Mais ma question, c'est est-ce qu'on peut faire ça une fois qu'on a eu la méthodologie, est-ce qu'on peut faire ça seul? C'est-à-dire qu'encore une fois, si demain j'ai des problèmes, je sais pas, de couple, est-ce que moi toute seule, je peux ouvrir mon Coran en disant, Ya Allah, montre-moi la ayah qui me permettra de comprendre, de projeter mon cœur et ensuite de mettre en pratique?
Alors, moi, justement, dans la formation Nouveau Départ avec le Coran, je forme les élèves à être autonomes dans cette méthodologie. Par contre, avec l'expérience, j'ai vu que les élèves, ils ont un peu peur d'avoir un contact direct avec le Coran parce qu'ils disent, moi, je n'ai pas les outils que le professeur il a, moi, je peux avoir une mauvaise compréhension, etc. C'est pour ça que mon premier conseil, c'est ne pensez pas que vous pouvez comprendre le Coran tout seul. Mais le minimum, c'est d'avoir des livres de tafsir reconnus par les imams de la communauté. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai lancé la plateforme Deviens compagnon du Coran parce que je me suis aperçu que les élèves, ils avaient besoin d'être accompagnés dans le tafsir, dans le travail en fait que moi je leur apporte pour les amener à eux vraiment se concentrer sur leur travail individuel, la méditation et la mise en pratique. Donc une personne, elle peut le faire toute seule. Sur des versets, parce que cette méthodologie, en fait, je l'enseigne pour étudier verset par verset. C'est-à-dire qu'une personne, elle va lire le Coran, elle va tomber sur un verset qui la touche particulièrement. Ou elle va en savoir plus sur ce verset-là, elle va utiliser cette méthodologie pour arriver à la mise en pratique de ce verset-là. Une fois que ça, c'est acquis, je l'enseigne à faire ça sur une sourate du Coran. Donc on parle plus de verset par verset, mais on parle de sourate. Donc il y a quelques ajustements à faire parce que là on parle de plusieurs versets, on parle d'un groupe de versets. Et sur la plateforme Deviens un compagnon du Coran, moi ce que je fais c'est que j'enseigne les sourates. Mais j'estime que la personne qui a suivi la formation Deviens un compagnon du Coran, Nouveau départ avec le Coran, excusez-moi, elle a si elle a bien fait et qu'elle respecte le protocole, elle a la capacité de faire ça sur des versets bien précis. Mmh. Ensuite, il faut qu'elle sache, par exemple, par rapport à son problème, quel est le verset qu'il faut qu'elle étudie.
C'est ça, exactement.
Elle va ouvrir le Coran au hasard, elle va dire, elle va prendre ce verset-là pour répondre à son problème d'aujourd'hui. Non. Donc là, c'est pour ça qu'il faut une lecture quand même régulière du Coran également pour savoir à peu près tel sujet, je vais le trouver dans telle sourate. Si on parle de mariage ou divorce, je vais le trouver dans telle sourate. Si on parle de confiance en Allah, je vais le trouver dans telle sourate. Si on parle... Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une lecture quand même régulière du Coran, prendre ses notes et ensuite, s'il y a une situation particulière, et savoir que tel sujet se trouve dans telle sourate.
Ouais, mais en fait, c'est en ça que, encore une fois, on a commencé la conversation comme ça, mais c'est, je pense, très important de le rappeler. Tout est lié, en fait. C'est-à-dire que cette méthodologie-là, elle est extrêmement précieuse. Elle permet d'aller vraiment beaucoup plus loin dans son rapport au Coran et surtout dans sa manière de vivre le Coran, parce que c'est quand même un verbe qui est fort et qui n'est pas anodin. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas lire le Coran régulièrement ou écouter des... même des fois, écouter la sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, en tout cas, baigner dans un environnement où on a plusieurs sources, ça permet de voir effectivement ce « Ah mais oui, tel cher dans tel khutbah, il avait parlé de cette ayah » et du coup, ça va permettre, quand on a la problématique qui vient à laquelle on doit faire face, de se dire on peut aller plus vite en fait vers le verset concerné, vers l'ayah concernée et voir ensuite comment appliquer la fameuse méthodologie dont vous avez parlé. Mais vous voyez, au début, on a parlé de votre parcours, etc. Et vous disiez que vous avez été en colère contre ces chouillures qui vous ont enseigné parce qu'on se dit, mais j'ai passé toutes ces années là, personne ne m'a rien dit, personne ne m'a dit que c'était parfaitement normal de ressentir ce que je ressens, personne ne m'a dit que ce que j'apprenais ne me suffirait pas. Mais en fait, arrêtez-moi si je me trompe, enfin dites-moi si je me trompe, mais j'ai quand même le sentiment que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, bah, déjà, ça vous a permis d'arriver à cette méthodologie-là et à l'appliquer avec... ferveur et conviction, et que quand bien même il n'y a pas cette méthodologie-là, enfin si, quand bien même vous ne l'auriez pas enseigné, dans tous les cas, ce que vous avez appris, j'imagine que ça vous sert quand même aujourd'hui, parce qu'il y a peut-être des choses auxquelles vous pouvez faire référence plus facilement, non ?
Bien sûr. Déjà, si je suis passé par là, c'est que je devais passer par là.
Évidemment.
Et c'est cette expérience qui m'a amené à ce que je suis aujourd'hui et à proposer le travail que je propose aujourd'hui. Donc, on ne peut que remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait ce passage-là. Et au moins, je sais de quoi je parle, parce que je suis passé par le chemin qu'emprunte la majorité des musulmans.
Donc, tout à fait.
Je sais de quoi je parle, je sais les sentiments, la frustration. Certains peuvent dire, et c'est une question que je me suis posée, je mémorise le Coran, etc., mais je ne change pas, je suis un hypocrite, donc ce sentiment d'hypocrisie, etc., je le ressens, je sais ce que c'est, ce malaise avec les gens qui, comme ils vous voient mémoriser le Coran, ils vous prennent pour quelqu'un, mais en fait, vous êtes personne. Donc, je devais passer par ça pour proposer ce que je propose aujourd'hui. Et je rebondis sur ce que vous dites, et c'est à chaque fois ce que je dis à mes élèves, c'est que lorsque l'on traite une sourate, en général, on traite un sujet. Par exemple, si on reprend sur la Takathur, on a traité le sujet de l'amour du bas monde. Maintenant, à vous de faire vos fiches. Et à chaque fois que vous entendez un hadith ou un autre verset qui est en rapport avec l'amour du bas monde, une parole de compagnon ou, comme vous avez dit, un discours qui parle de ça, alimentez vos fiches sur ce sujet-là. Comme ça, maintenant vous allez avoir des fiches et vous pourrez même faire un rappel à des gens, argumenter avec des hadiths, des versets, etc. C'est pas, et en fait, la religion, tout va ensemble. L'amour de ce bas monde, le Coran il en parle, les hadiths il en parle, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en parle, la vie des compagnons en parle. Donc c'est à nous en fait de tout réunir, et c'est ce que je dis, hein. Par exemple, avec Sourate Al-Falaq, Sourate Al-Nas, on a ce sujet de chercher le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce qui va concerner ce thème, vous le mettez avec dans vos fiches. Et dès que vous voulez parler, par exemple, vous avez une assemblée, vous vous dites, ce serait bien de faire un rappel, mais personne ne le fait. Et vous choisissez un thème et vous le retransmettez. Si vous avez un conseil, vous voyez qu'une personne de votre entourage fait telle ou telle chose, vous voulez la conseiller et que c'est un thème que vous avez déjà traité, bah vous avez juste à prendre votre fiche. Et bah voilà, mon frère, ma soeur, tu vois, t'enchaînes deux travails, tu travailles le jour, tu travailles la nuit. C'est, à cause de ça, tu as délaissé ta prière, tu as ci, tu as ça. Bah, tu vois, il y a ça sur la tête Takathur qui parle de ci, de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit par rapport à celui qui recherche le Takathur, ça. Ce que tu risques, ce que tu perds. Bref, on a nos fiches complètes en fait. Et moi, c'est ce que je dis, alimentez vos fiches d'histoire, alimentez vos fiches de citations pour que après,
c'est un super conseil.
Déjà, ça vous parle à vous et vous pouvez en faire profiter les autres. On n'a pas besoin d'être un professeur ou d'être un imam ou etc. pour faire des rappels. On a juste à transmettre ce qu'on a compris.
C'est une belle définition, parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se dire non, j'ai pas le niveau, j'ai pas le... Mais c'est vrai, en fait, vous le dites très bien, on n'a pas besoin... Enfin, faut transmettre ce qu'on a appris, j'aime beaucoup. J'ai deux dernières questions. Ce qu'on a compris, surtout. Ce qu'on a compris, ouais, c'est vrai, pardon, c'est vrai. J'ai pas bien retranscrit ce que vous avez dit, effectivement. Transmettre ce qu'on a compris, subhanallah. J'ai deux dernières questions pour vous. La première, c'est que on a beaucoup parlé du Coran, alhamdoulilah, mais... On a peu parlé d'Allah. Et ma question, c'est comment on fait pour... à mon sens, mais je peux me tromper, moi, je suis toujours un peu... j'ai quand même toujours le sentiment que si on fait tout ça, c'est quand même pour rencontrer notre Seigneur dans les meilleures conditions qu'il soit. Et à titre personnel, avoir de l'amour pour mon Seigneur, avoir une proximité pour Allah, c'est vraiment quelque chose que je recherche, en fait. Et quelque part, tout ce qu'on fait, c'est pour ça. Ma question, c'est comment on peut passer du coup de cette proximité avec le Coran à une proximité avec Allah. Comment les deux sont liés en fait, et comment vous liez les deux si vous apprenez à lier les deux?
Bah déjà, comme le Coran c'est la parole d'Allah, la proximité avec le Coran c'est la proximité avec Allah. Et dans le Coran, en fait, on dit que le Coran c'est la parole d'Allah à propos de lui-même. Donc automatiquement, si on a une proximité avec le Coran, si on comprend le Coran, on va mieux connaître Allah à travers ses noms, ses attributs. On va prendre conscience des bienfaits qu'il nous a donnés. On va prendre conscience de la beauté de sa religion, parce que ses interdits, ils ne sont pas injustes. Ses ordres, ils ne sont pas injustes. Ils sont pour notre bien-être, pour notre bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Donc le fait d'avoir une relation proche avec le Coran, ça va nous rapprocher de l'auteur de ce livre-là. Et on va prendre conscience du bienfait du Coran, du bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a attribué avec le Coran al-Karim. Pour répondre également à cette question-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah, il a des rapprochés parmi les gens. Allah, il a des rapprochés parmi les gens. Et les compagnons, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui sont-ils, ces rapprochés? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les rapprochés du Coran sont les rapprochés d'Allah. Donc on voit cette proximité. En fait, le moyen le plus rapide de devenir un rapproché d'Allah, c'est de devenir un rapproché du Coran.
C'est très belle
réponse. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre en fait. Et je connais pas une personne qui va vous dire je suis proche du Coran mais je suis pas proche d'Allah.
Alhamdoulilah. Très bien. C'est vraiment c'est quelque chose qui se fait presque naturellement, mais je trouvais que c'était important de le redire, parce que encore une fois, c'était, alhamdoulilah, on a beaucoup beaucoup parlé du Coran, mais c'est toujours intéressant et important, je trouve, de le rattacher en fait à celui dont le Coran est la parole en fait. Et merci d'avoir refait le lien. J'ai une dernière question, parce que bon, on est quand même sur le halal love, et je voulais savoir comment le Coran, comment la parole d'Allah pouvait être un ciment dans le couple. Est-ce qu'il peut être un ciment dans le couple, et si oui, comment?
Le Coran, il parle de tout notre vie, de tous les domaines de notre vie. Et bien sûr, tout ce qui est couple, tout ce qui est éducation, tout ce qui est famille, société, ça n'échappe pas. Donc bien sûr, le Coran, en fait, il va nous éduquer en tant que personne, déjà. Et il va, comme vous avez dit, cimenter notre couple. un couple qui est proche du Coran va premièrement profiter de la baraka du Coran. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que même le fait de s'asseoir autour du Coran, ça va être une baraka. Ça, c'est la premièrement. C'est premièrement. Ensuite, dans le Coran, à travers le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de nous, premièrement, de la personne au niveau individuel, et il va lui transmettre le bon comportement, les qualités que le bon musulman a. Donc l'humilité, la compassion, l'entraide, et ce sont des choses que l'on doit avoir dans notre couple. Donc en se corrigeant individuellement,
ça va renforcer le couple en fait. Voilà, le fait d'être fort seul, ça permet de solidifier l'entité à deux en fait.
Voilà, c'est ça en fait. Notre changement, il va jaillir sur l'autre. Et ça va. Et si l'autre personne est dans la même, je trouve plus mes mots, dans le même mode en fait,
peut-être
de la même dynamique, voilà, on va dire ça comme ça. Et c'est génial parce que en se corrigeant tout seul, on va solidifier notre couple. Et ensuite, bien sûr, il y a des versets qui parlent spécifiquement du couple, du bon comportement du mari, de la femme, et également dans le hadith, hein, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est ce que je recommande, c'est d'avoir un temps dans lequel le mari et la femme, premièrement, ils aient un temps de lecture commun, et s'il y a des enfants, un deuxième temps de lecture commun en famille.
Ah, même quand on est marié, qu'on a des enfants, de se dire il y a un temps pour toi et moi, et il y a un temps pour toute la famille, c'est ça?
Bien sûr, parce que les sujets qui vont concerner un mari et une femme ne sont pas les mêmes sujets qui vont concerner une famille.
Ouais, c'est hyper pertinent, j'avais jamais vu comme ça. Ok.
Et en général, quand on fait une assise avec les enfants, on va toujours parler de sujets qui tournent autour des enfants. Mais il y a des sujets qui tournent autour des adultes également, et du couple. Et si on n'a pas ce temps-là, d'ailleurs, il faut que je le remette en place, hein, ce temps-là, parce que Shaitan, il travaille sur ça, justement. Ouais. Et il travaille sur le fait de séparer les couples. C'est très dur de perdurer, en fait, d'avoir une assise avec sa femme, avec son mari, ou même avec une assise avec ses enfants. C'est très difficile parce que Shaitan, il aime pas ça et il travaille sur ça. On va le faire une fois, deux fois, trois fois, et après, hop, oui, non, mais j'ai quelque chose à faire, oui, bon, on reporte à demain, et après, hop, on oublie. Donc ça va faire partie des choses qu'il faut remettre en place de mon côté, en tout cas.
Non, je pense que pour beaucoup, en tout cas, remettre en place, renouveler l'intention pour les personnes, alhamdoulilah, qui ont réussi à sécuriser cette habitude. Mais je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir partagé votre expérience, parce que même ce dernier témoignage, c'est vraiment la preuve que en fait personne n'est à l'abri. Shaitan, il de toute façon c'est son seul travail, hein, parce que parfois on se dit ah, Shaitan il est fort. Bon, Shaitan, ça fait des centaines et des millions d'années qu'il fait la même chose et il fait qu'une seule chose. Donc je sais pas s'il est vraiment très fort, mais en tout cas il est très obstiné. Et c'est vrai que il lâche pas, notamment les personnes qui tentent d'être rapprochées d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de poursuivre nos efforts pour nous permettre de nous rapprocher de lui. Et encore une fois, merci beaucoup, mon frère Abdelkarim, pour tous ces enseignements, parce que c'était très, très riche. C'était nécessaire, je pense, vraiment de repartir sur votre parcours à vous, parce que, en fait, c'est votre parcours à vous, mais ça dit beaucoup de nous, en fait. Quand je dis nous, c'est nous les musulmans de France, mais pas que, et vous l'avez très très bien dit. Et c'est beau de voir qu'on peut effectivement trouver une issue à ça et retrouver un chemin vers un rapport plus intime, plus aimant aussi avec le Coran, et donc de fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc merci encore de votre disponibilité. Est-ce que vous souhaiteriez rajouter quelque chose?
Oui, un dernier point sur le dernier sujet là, par rapport au couple, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que de mon expérience, hein, et de l'expérience d'autres professeurs avec qui je parle ou d'autres prédicateurs, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas la cause, en fait, je ne l'ai pas comprise, mais il est toujours plus difficile de conseiller ou de faire da'wa à des proches qu'à des gens qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que moi, en tant que professeur, vous allez me voir en classe, je donne des conseils de fou, si, ça, ça, ah oui, ah oui. Mais j'ai pas la même facilité à donner les mêmes conseils à ma femme, à mes enfants, à mes frères, à mes parents.
Bah, les enjeux sont pas les mêmes, je pense.
Les enjeux,
parce que
oui,
les enjeux sont pas les mêmes, et puis en fait, on se met des barrières, en fait, souvent. On a, enfin, peut-être le jugement, le oui, mais elle va le prendre comme ça. Ah, mais elle, lui, il est pas prêt. Et puis, en fait, c'est tellement, nos relations sont tellement enracinées sur plein de choses. Enfin, moi, je trouve que c'est difficile, ouais. C'est difficile d'avoir cette objectivité-là. Il n'y a pas d'enjeu quand on fait la darwa auprès d'élèves. Enfin, il y a moins d'enjeux, en tout cas, je trouve.
Oui, mais là, ça revient aussi à un problème d'intention. Parce que si notre intention est sincère et qu'on fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, entre guillemets, on n'a rien à faire de la réaction de l'autre, tant que le conseil est amené avec sagesse et arguments, etc.
Ah ouais,
donc,
tout à fait.
C'est juste pour dire que, voilà, pour ces relations de couple, sachez que c'est normal d'avoir plus de difficultés de conseiller son conjoint que quelqu'un qu'on croise une fois par an. Et justement, il faut aller au-dessus. Et dernier conseil par rapport à ça, c'est essayer de progresser ensemble. Parce que si dans le couple, il y a une progression trop rapide de l'un spirituellement et l'autre, il ne suit pas, ça peut amener quelques conflits par la suite.
Oui, bien sûr.
Donc essayer, et justement, c'est le but de ces assises, d'essayer de progresser ensemble, même si on sait qu'en général, les femmes, elles sont un peu plus motivées par l'apprentissage. Donc n'oubliez pas de ramener votre conjoint et ne tombez pas dans le piège de Shaitan qui dit « Ah, mais lui, de toute manière, il veut pas apprendre. » Non, ça se trouve, il attend juste que vous lui tendiez cette perche-là, mais vous ne lui tendez pas par ce rôle de Shaitan qui dit « Mais non, tu as d'autres choses à faire, tu as la vaisselle à faire, tu as les enfants, tu as ci, tu as ça. »
Ou juste donc, des fois, tu as déjà essayé, ça marche pas. Donc, c'est pas la peine de forcer. Alors qu'en fait, j'ai l'impression, en tout cas, que souvent, faut miser sur le temps long, en fait. Sur ce genre de choses, il faut pas laisser tomber, même si c'est difficile, même si on a l'impression qu'on a essayé une fois, deux fois, trois fois, de se dire, tant que je peux, j'essayerai, quitte à changer la manière dont je le fais, parce que parfois, il faut changer la manière dont on fait le rappel aussi. Mais en tout cas, ouais, pas laisser tomber, c'est sûr.
Il faut changer le comportement. Si la personne n'écoute pas nos paroles, il va obligatoirement voir notre comportement. Et les hommes, je sais que c'est très difficile, mais il faut accepter les conseils de nos femmes certaines fois. C'est très difficile pour un homme. Il y a cet orgueil de recevoir un conseil d'une femme, etc. C'est quelque chose qu'il faut travailler, en fait. C'est pas parce que notre femme nous donne un conseil qu'il faut le refuser. Non, comme ça vient de toi, Il y a plein de fois où on m'a conseillé et heureusement, j'ai ce recul après de dire « Ouais, mais en fait, ce conseil, il viendrait d'une autre personne. Je l'aurais bien pris, mais parce que c'est de ma femme, je le prends mal ou j'ai cet orgueil justement de dire « Ah non, c'est moi qui suis dans la vérité, elle n'est pas dans la vérité. » Donc, un conseil pour les hommes, des fois, il faut savoir faire, faut prendre un peu de recul et accepter le conseil de celle qui partage notre quotidien. Et je finis juste sur une question, justement. Hier, je donnais un cours de Sira et je parlais de la révélation et comment Khadija, radiallahu anha, elle a soutenu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et je me suis dit, j'ai posé la question aux sœurs et aux frères, je leur disais, donc, imaginez-vous, pour les sœurs, imaginez-vous, votre mari, du jour au lendemain, il rentre chez vous en disant, j'ai reçu la révélation. Mais est-ce que vous allez le croire? Non, parce que son comportement au quotidien, il n'a pas le comportement d'une personne qui va recevoir la révélation. Alors que un musulman, normalement, il doit faire son meilleur comportement, ça doit être au sein de son foyer. Et Khadija, quand elle a entendu l'histoire du prophète Sam, elle n'a pas hésité une fois. Et c'est même elle qui lui a dit que c'est une bonne nouvelle pour toi. Parce que le prophète Sam, il avait le comportement chez lui. Avant la prophétie, il avait le comportement d'un prophète. Donc quand elle a reçu cette information, ça a été logique. Mais nous, notre comportement, il est totalement à l'inverse. Donc, si on rentre chez nous en disant « peut-être que je suis devenu prophète », eh ben, y a de fortes chances pour que notre femme nous rie au nez.
Ou au moins qu'elle questionne. Je ne sais pas si elle va rire, mais au moins elle va dire « t'es sûr ?» Mais c'est un bon rappel, c'est vraiment un très très bon rappel. Et merci, Balakalofik, pour cette leçon d'humilité quelque part, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de se remettre en question les uns comme les autres. Hein. Au final, on a tous des manquements. Un dernier propos, peut-être, où est-ce que les gens peuvent vous retrouver? Moi, je mettrai les liens, évidemment, sur le descriptif de l'épisode, mais vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous êtes présent, comment les gens peuvent vous contacter et avoir accès. Alors, je répète juste aux deux programmes. Il y a le programme, donc il y a le projet Vive le Coran, et à l'intérieur du projet Vive le Coran, il y a deux programmes, me semble-t-il. Arrêtez-moi si je me trompe. Le premier programme, c'est Nouveau départ avec le Coran, où là, on a vous former à la méthodologie prophétique pour vivre le Coran, Inch'Allah. Et puis, la deuxième formation, c'est Deviens un compagnon du Coran, où là, on a la méthodologie qui est appliquée sur différentes sourates, c'est ça?
C'est ça. Vous avez bien résumé. Et pour me retrouver, je suis présent sur les réseaux sociaux, donc principalement YouTube et Instagram. Et il y a mon site internet, donc tout est autour du mot-clé « Vivre le Coran ». Sur tous les réseaux sociaux, c'est « Vivre le Coran ». Le site internet, c'est vivrelecoran.fr. Et les différents programmes, comme vous l'avez dit, « Nouveau départ avec le Coran », qui je commence beaucoup sur la prise de conscience, hein, parce qu'avant de parler de méthodologie, il faut une prise de conscience. Prise de conscience que, même si on a une relation avec le Coran, prise de conscience déjà que certains n'ont pas de relation avec le Coran, et pour ceux qui ont une relation avec le Coran, que cette relation n'est peut-être pas celle que l'on devrait avoir. Donc il y a un long travail sur ça, argumenté de textes, de hadiths, de versets. Et ensuite, il y a la méthodologie, l'explication de la méthodologie. Et le deuxième projet, qui est une plateforme qui est alimentée chaque semaine, c'est justement l'application de cette méthodologie sur les sourates du Coran, en commençant par les petites sourates, donc de sourate An-Nas jusqu'à remonter à sourate Al-Baqarah, Inch'Allah. C'est le projet de toute une vie. Donc, on avance petit à petit. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de permettre de terminer l'étude du Coran selon cette méthodologie. Et si il reprend mon âme avant, j'espère que mes élèves continueront ce travail pour pouvoir terminer ce noble projet.
Inch'Allah, c'est ce qu'on vous souhaite vraiment. C'est tout le bien qu'on vous souhaite, Inch'Allah. Merci beaucoup, mon frère Abdelkarim, pour votre temps, votre disponibilité, votre sincérité aussi dans l'expérience. C'était très agréable. Prenez soin de vous, fi amanillah, et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. J'espère que cet épisode vous a plu et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez choisi d'en retirer. Halal Love, c'est un podcast qui est conçu avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en envoyer un peu, beaucoup, passionnément, dites-le moi avec 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez 10 secondes et laissez un commentaire sympa, ça c'est si vous avez une minute. Si vous n'avez pas d'appareil Apple, aucun problème. Abonnez-vous sur l'application de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast ou autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis. Un grand merci à celles et ceux qui le font déjà et ceux qui pensent à moi dans leur devoir. Qu'Allah Azzawajal vous récompense de la plus douce des manières. Vous êtes géniaux, j'ai pas d'autres mots. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à mardi prochain si Dieu veut. En attendant, peace et halal love sur chacun d'entre vous.